Bonjour, ici Max Cohn. Nous sommes le 16 juillet 2009 chez Dominique de Santi à Paris. Alors Dominique, d'abord, je crois que ça me fait très plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, d'autant plus que, bon, bien entendu, j'ai connu Touki, Jean Toussaint de Santi, avec qui j'ai travaillé. Je lui ai dédié un livre, Traces de psychanalyse. C'était un véritable ami. Il m'a fait don de son amitié. Il me manque énormément. Mais bien entendu, nous sommes là aujourd'hui, non pas seulement pour parler de lui, mais aussi pour parler de vous. Alors j'ai...
Une manière de parler de lui.
Alors j'ai eu envie, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, mais de quoi on va parler? Je dis, mais laissez les choses se faire. Mais j'ai quand même une idée, parce que dans ce que le siècle m'a dit, page 554, pour citer exactement la référence, vous dites, l'improbable, je le nomme miracle, le hasard est miraculeux, et grâce à lui, ma vie est comme un collage de miracles. Désastreuse ou bien heureuse, les circonstances sont toujours tombées sur moi. Ce que je planifie, en revanche, se réalise rarement. C'est vrai, ça ?
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Les choses arrivent, comme est arrivée ma rencontre, surtout avec Touki, tout à fait improbable. Mais les choses m'arrivent vraiment au moment où je n'y attends pas, d'abord, et puis d'une manière fortuite. Une rencontre, un coup de téléphone, vraiment une manière fortuite.
Là, le téléphone a sonné, c'était pas si fortuit que ça. C'était votre meilleur ami. Qui sait ?
Oui. Non, il a... Enfin, les miracles n'ont lieu que quelquefois. Alors, mettons... par exemple, j'avais très envie de les mémoires étant épuisées, ce que le siècle m'a dit, j'avais très envie que ce soit republié.
Ça l'a été.
Alors, précisément, j'ai demandé à plusieurs éditeurs qui ont dit « Oh non, c'est trop gros », et puis, enfin bref, non. Et puis est venu le directeur d'une collection de Hachette qui s'appelle Pluriel, que cet homme je le connaissais depuis longtemps, et il venait pour un livre de Jean Toussaint de Santi, que d'ailleurs il a republié justement. C'est une collection de republications. Il était avec une très charmante dame qui était son adjointe, et que je connais bien, et qui a dit, mais moi je suis en train de lire les mémoires de Dominique et je vous assure que c'est très intéressant. Ce monsieur m'a demandé de lui prêter, car il n'y en a plus, de lui prêter un exemplaire de mes mémoires, ce que j'ai fait. Et 15 jours après, il m'a dit, eh bien ça sort à telle date. Voilà, vous voyez, ça c'est un tout petit...
J'ai effectivement vu à la librairie L'Atelier.
Mais oui, mais c'est
l'ancienne édition.
Récent. Ah bah si, vous avez la grande édition.
Oui, la grande édition. Mais à l'époque, vous m'aviez dit que ça vous avait fait beaucoup souffrir d'écrire ce livre.
Ben, bien entendu, vous savez, je ne crois pas qu'on écrive ses mémoires pour s'amuser. Peut-être les très grands comme Chateaubriand ou Malraux, mais tous les gens que je connais qui ont écrit des mémoires ou des souvenirs, ça a été le revécu, et le revécu comprend toujours les phases douloureuses avec les phases heureuses, donc on revit tout.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire vos mémoires à un moment donné ?
L'insistance d'un homme beaucoup plus jeune que moi, dont les parents étaient de la très haute société communiste, comme nous disions avec Touki, parce que comme dans mes ancêtres très mêlés, j'ai aussi un pasteur. Alors,
vous avez un pasteur aussi ?
Oui, j'ai un pasteur.
Ah bon ?
Aussi, oh oui, il y a tout. Il n'y a que les musulmans qui manquent, malheureusement. Autrement, ça serait complet. Mais, bon, alors, il parlait en riant de la THSP, la très haute société protestante.
THSP.
Et alors, Touki, qui, comme vous le savez, ne manquait pas d'humour, a très vite baptisé THSC, très haute société communiste, les gens qui étaient en haut de l'échelle, et bon. Et alors... Pourquoi je vous parle de la THSP ?
Comment vous avez commencé à avoir envie d'écrire vos mémoires ?
Ah oui, alors, voilà. Alors donc la THSC comprenait quelques chirurgiens connus, Picasso naturellement, enfin les gens vraiment mondialement admis. Et le fils d'un couple comme ça, qui est resté d'ailleurs communiste jusqu'au bout, a dit de moi devant leurs enfants, dont ce garçon, le plus grand bien pendant plusieurs années, après quoi ils ont dit le mal le plus extrême. Et ça l'a frappé. Et il s'est dit, mais qui c'est celle-là? Puis après, il a fait ma connaissance. Et c'est un ami de Bernard-Henri Lévy, et à ce moment-là, je les fréquentais souvent, et il m'a dit, faut que tu écrives tes mémoires. Je lui ai dit, oh, écoute, j'ai autre chose à faire, et puis ça m'ennuie. Et il insistait vraiment beaucoup, et un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé, peut-être la mort d'un ami, une chose comme ça, je me suis dit, au fond, il faut le faire. Et j'ai commencé. Et ça m'a littéralement rendu malade. Enfin, on a détecté un truc opérable, mais qu'on a opéré.
Qu'est-ce qu'on vous a trouvé?
Voilà. Mais j'avais peut-être ça depuis très longtemps. Mais en tout cas, c'est très ennuyeux. Bon, et ça m'a tenu des mois. Et les mémoires, pendant ce temps-là, étaient programmées. Je ne pouvais pas écrire, puis je me suis remise à écrire, et je dirais que les mémoires m'ont guéri aussi. Voilà, alors vous voyez.
Alors, dans cette citation que j'ai faite au début de notre entretien m'amène évidemment directement à votre livre le plus récent, pour ne pas dire le dernier, puisque moi je ne crois pas que ce soit le dernier, même si vous dites que c'est le dernier à un moment donné, mais apparemment vous êtes en train d'écrire sur autre chose. La sainte et l'incroyante rencontre avec Mère Marie, que vous avez dédiée aussi à Jean Toussaint de Santy, qui aimait Mère Marie, dites-vous, à la mémoire de mon père, mise à mort par les nazis. Alors pourquoi ces dédicaces?
Écoutez, c'est la dédicace que je mets depuis plusieurs années sur chaque livre.
Oui, mais pourquoi?
Parce que ce sont... Enfin, je considère que ce que j'ai pu faire, c'est vraiment à cause de la présence, puis de l'absence, de trois hommes en réalité, mon père.
Ça. Il s'appelait comment? C'était quoi son prénom?
Serge Persky. Il était juriste, mais il a laissé des traductions. Par exemple, c'est lui le premier qui a traduit La mère de Gorky, qui depuis a eu... C'est une époque un petit peu où on découvrait la littérature russe classique en France. Il y a eu un livre sur les maîtres du roman russe, et puis ensuite mon père a repris ça 20 ans après, je crois, et il a écrit, lui, les maîtres du roman russe contemporain, enfin voilà, il faisait des choses comme ça, et bon, il m'a formé à la fois comme il voulait contre lui, comme tous les parents, bien sûr, et puis à 18 ans, j'ai rencontré Touki, et ça a été évidemment une grande influence réciproque, nous nous sommes fait l'un pour l'un par l'autre, et c'est bien pourquoi nous n'avons jamais pu nous quitter.
Il y a une troisième personne.
Alors la troisième personne, c'est Jacques de Sugny, c'est un monsieur de la très ancienne aristocratie provinciale française. Il se targuait d'avoir été à la première croisade, j'avoue que je n'ai pas vérifié et que lui s'en moquait, qui est devenu communiste à la suite d'un accident de moto. C'est un chirurgien communiste qui l'a remis sur rail.
C'est pas gratitude envers ce chirurgien qu'il est devenu.
J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais alors après, il a été, d'abord il a été un résistant reconnu, résistance armée reconnue, les FTP, et ensuite il a dirigé l'ensemble de la presse communiste, puis l'ensemble de l'Humanité des Lettres Françaises, et puis un beau jour, on l'a exclu en 54. Et on a trouvé, comme toujours, il trouvait toujours c'était jamais une exclusion pour des accords politiques. En réalité, ils trouvaient que les journaux baissaient parce que on politisait trop. C'était trop grossièrement politisé, quoi. Et il s'était permis de faire cette objection devant les membres du parti du bureau politique et au congrès suivant, ils l'ont exclu pour une question de note de frais. Mais vraiment de quelques centaines de francs à l'époque, vraiment.
Un prétexte.
Ah oui, mais c'était un prétexte. Alors il en a conçu parce qu'il avait quand même des restes de l'honneur grand H des grandes familles. Il en a conçu une extrême humiliation. Et quand je l'ai rencontré, il faisait du porte-à-porte pour les assurances. Et alors, je dois dire, là, le petit milieu autour de moi, c'était la guerre d'Algérie, il y avait Françoise Vernier, qui est devenue une éditrice très connue, il y avait Paul-Marie de Lagorre.
C'est elle qui a téléphoné tout à l'heure, je vous l'avais demandé.
Elle est morte.
Elle est morte, ah non, non, c'est une autre dame qui a téléphoné tout à l'heure.
Oui.
Une autre de vos amis.
Et oui, une autre de mes amis, oui. Simone Debout, une spécialiste des socialistes de l'utopie, internationalement reconnue d'ailleurs. Et alors non, alors il y avait Françoise Vernier, il y avait Paul-Marie de Lagorce, qui était très actif pour la libération de l'Algérie et tout ça. Et ils ont dit, c'est impossible, on ne peut pas le laisser comme ça. Et il est devenu, sous le nom de son vieux château, Trémolin, une personnalité qui parlait des bêtes dans les émissions pour enfants et adolescents. Et il est devenu archi-célèbre. Il était impossible de se promener dans un parc avec lui parce que les enfants accouraient en disant « Trémolin, une histoire ». Voilà, vous voyez ce que c'est que le destin quand même. Il était pas du tout destiné à ça, et à sa mort, c'est ça qu'il faisait.
Alors, pour revenir à ce livre, La Sainte et l'Incroyante, Mère Marie, comment vous l'avez rencontrée?
Alors, Mère Marie...
Qui c'est?
Alors, Mère Marie, c'est vraiment un personnage de roman à peine croyable. C'est la fille de propriétaire terrien de Crimée ou des approches de la Crimée. Elle a été élevée comme une demoiselle de ce temps devait être élevée. À 15 ans, elle s'est éprise du plus grand poète de l'époque, Alexandre Bloch. Ce fut un amour entièrement chaste et une grande passion. Elle s'est mariée à 19 ans, elle a divorcé à 3 ans après, elle a eu un enfant dont le père est indéterminé. Ensuite est venue la révolution, elle a contribué, elle n'était pas du tout bolchevique, mais elle a contribué dans une atmosphère plutôt socialiste révolutionnaire, et elle était même mère révolutionnaire, mère M-A-I-R-E, révolutionnaire de l'endroit où étaient ses propriétés terriennes, dont elle avait fait cadeau à la commune naturellement, à Napa. Puis les Blancs, c'était la guerre civile, les Blancs ont repris à Napa, ils ont entrepris de la juger. Le frère, je crois, du juge, c'était des Cosaques qui avaient repris à Napa. Et un Cosaque, mais qui était en même temps instituteur, qui était le frère du juge, ou le parent en tout cas, s'était pris d'elle. Elle était divorcée, ils se sont mariés, lui comme Cosaque est parti avec l'armée blanche, elle l'a rejoint, elle s'est retrouvée finalement au bout d'un très long voyage avec du coup trois enfants, parce qu'ils en avaient eu deux, à Paris, dans la misère la plus entière. Elle travaillait beaucoup à l'organisation des étudiants orthodoxes, bénévolement d'ailleurs, et autrement elle faisait de la broderie. Elle brodait admirablement, elle dessinait admirablement, elle faisait des poèmes, elle faisait de la théologie. C'était vraiment un être...
Comment vous l'avez rencontré ?
Alors, attendez un instant, je veux vous dire son destin. Les moniales russes, contrairement aux moniales catholiques et aux diaconesses protestantes, ne pouvaient que prier dans leur couvent. Elles n'enseignaient pas, elles ne faisaient pas de travail social. Mère Marie a dit au métropolite qui avait la haute main sur l'immigration russe, Eulogie, qui était rue d'Arrue, tout est changé, nous avons tout perdu, nous pouvons au moins reconstruire quelque chose de plus moderne dans l'Église, et je voudrais avoir une communauté religieuse, mais qui soit active, car il y a des Russes absolument misérables, c'était avant le Front Populaire, et d'ailleurs même pendant le Front Populaire, les apatrides n'étaient pas secourus. Il faut faire quelque chose, mais je veux prendre le voile. Parce qu'elle avait perdu un de ses enfants, elle était dans le désespoir, et elle pensait que le Christ voulait qu'elle ne soit pas seulement la mère de ses enfants, mais la mère de tous. Et le métropolite s'est laissé convaincre. Tout le monde lui disait, mais enfin c'est absurde, elle reçoit ses ordres directement de Jésus, vous pensez bien qu'elle n'aura aucune discipline et que vous n'aurez aucune autorité sur elle. Et il a répondu, ce qu'elle propose est profondément original, elle a l'énergie pour le faire. Donc, quand je l'ai connue, au 77 rue de Lourmel, elle avait retapé une vieille maison, et on y faisait une cantine quotidienne de 125 repas pour presque rien, un franc ou deux francs, pour les chômeurs russes sans secours. En dehors de ça, le dimanche, Berdiaïev et d'autres philosophes, théologiens et poètes se réunissaient et on parlait de tout. Et j'ai d'abord connu sa fille aînée dans un groupe d'étudiants où chacun devait se présenter par son prénom et par la profession des parents pour voir si tout le monde était bourgeois ou si par hasard, au bonheur, c'était en 35, c'était les prémices du Front Populaire, il y aurait des fils d'ouvriers. En fait, il n'y en avait pas. Bon, alors ça se passait dans une mansarde du 6e, près du Luxembourg, et un grand aîné qui avait 3 ou 4 ans de plus que moi m'a amené, moi j'avais 15 ans, j'étais folle de curiosité, d'excitation, et là, au moment où chacun se présentait, une fille dit, mais je ne sais pas, je m'appelle Gaïana, mais je ne sais pas très bien quoi vous dire de mes origines, parce que ma mère est une religieuse orthodoxe et mon père un prêtre catholique. Et alors moi qui croyais plus ni en Dieu ni en diable, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai crié « tu mens ». Elle m'a regardé d'un air très gentil et elle m'a dit « je mens pourquoi ?» Parce qu'un prêtre catholique ne peut pas avoir d'enfant. Elle dit « eh bien écoute, à ton avis, on est né prêtre catholique, on est né religieuse orthodoxe, ça n'est pas comme ça, ils ont eu une vie avant ». Et ils étaient même légitimement mariés, et je suis la fille de quelqu'un qui est devenu prêtre catholique et d'une femme qui est devenue religieuse orthodoxe. Et comme elle connaissait mon introducteur en l'affaire, elle lui a dit, eh ben écoute, dimanche justement il y a Berdiaïev et tout ça, amène-la, comme ça elle verra ma mère. Et c'est comme ça que j'ai vu Mère Marie. Et je dois dire, comme j'étais la seule personne qu'elle ne connaissait pas dans l'assemblée de ce dimanche, et tout d'un coup, est entrée une femme grande, mastoc, avec évidemment une robe qui lui tombait jusqu'à terre, un voile, des lunettes, pas belle, qui m'a regardée. Et j'ai senti que c'était la première fois que j'étais, moi, sous un regard, pas la fille de quelqu'un, pas l'élève de telle classe, pas la bonne en littérature nulle en maths, non, j'étais moi. Et alors je suis revenu, j'ai participé à toutes les histoires de cantine, etc. Et voilà comment j'ai connu Mère Marie, pratiquement jusqu'à son arrestation.
Elle a été arrêtée comment ?
Alors, vient la guerre, très vite, puisque ça se passait donc en 35-36, je me suis mariée en 38 avec Touki, qui connaissait Mère Marie, qui l'admirait beaucoup, et qui lui plaisait bien aussi, et pendant la guerre, après la défaite, Mère Marie s'est aperçue que les plus malheureux, ça n'était plus les chômeurs russes, c'était les juifs. Alors elle s'est mise en contact avec des organisations qui s'occupaient de ça. Et d'abord, elle avait beaucoup de juifs dans sa communauté pour les cacher le temps qu'ils essayaient de partir en ce que nous appelions à l'époque la zone à Pétain, mais qui s'appelait la zone libre, et pour partir ailleurs. Et elle a été dénoncée de l'intérieur. On est toujours on ne peut être trahi que par les siens, parce que les autres ne vous connaissent pas. Alors, elle a été arrêtée, ainsi que son chapelain. Et l'arrestation du chapelain est assez intéressante, parce qu'il aurait pu fuir. On lui a simplement dit, soyez à la Gestapo, demain à telle heure, il y est allé. Et il a été interrogé par un homme très hautain, et qui lui a dit, mais vous, un prêtre, comment pouvez-vous aider les Youpins ? Alors il a pris son Christ, et le Christ orthodoxe, il y a vraiment le Christ en croix, sur leur croix, que portent les prêtres. Il a pris ça, il lui a dit, et ce Youpin-là, vous le connaissez ? Alors évidemment, ils l'ont battu, déporté, les Moradora. Et Mère Marie a été, elle a été d'abord à Romainville, la prison, et ensuite elle a été déportée au camp de Ravensbrück, où elle a connu d'ailleurs Geneviève de Gaulle qui m'en a parlé, et qui me disait qu'elle avait un rayonnement irrésistible. Elle inspirait le courage. Et elle est morte au tout dernier moment, elle était épuisée, quoi.
C'est un livre que vous deviez écrire.
Ah, oui, j'avais comme ça deux devoirs. C'était mon copain Robert Desnos, qui est mort en camp. J'ai fini par écrire le livre. Et elle, alors, vraiment, je devais le faire. Et quand j'ai senti que vraiment c'était le moment de faire un dernier livre, c'est celui-là.
Et vous êtes en train d'écrire autre chose.
Oui, on essaie toujours, vous savez.
C'est sur quoi ?
Ben là, j'essaye un curieux roman où a lieu, et ça je crois pas qu'on en ait tellement parlé dans les romans, enfin remarquez, j'en lis très peu, alors je ne sais pas, de quelque chose dont on a beaucoup parlé récemment, et qui est une maladie psychique qui a été constatée par beaucoup de gynécologues, et certains s'y sont intéressés, qui est le déni de maternité. Alors ça, c'est le début de mon livre. Après, c'est l'histoire, en réalité, d'une femme qui a été élevée par un père seul. Mais alors, pour sa naissance, j'ai fait appel à je ne sais rien, mais je me suis dit que ça devait être un déni de maternité. Et justement, il y a le professeur Israël Nizan qui en a parlé, et j'ai lu des choses qu'il avait publiées là-dessus, et ça me paraissait très probable. Et alors je suis en train d'écrire ça. Après, il y a la vie de cette femme élevée par un homme seul. Voilà. Alors on va voir si je vais aller jusqu'au bout, c'est pas sûr.
Vous êtes bien avancé un petit peu ?
Non, pas tellement, parce que j'avais essayé d'écrire quelque chose qui part d'une histoire vraie d'ailleurs, d'un fils d'ami que je connaissais depuis sa naissance, et qui s'est suicidé à la suite, qui était un ancien polytechnicien, à la suite, vous savez, de la pression du travail, le très très urgent et les projets secrets dont on confie évidemment chacun à au moins deux personnes pour pouvoir les comparer, mais les deux personnes n'ont pas le droit de dire ce qu'ils font, et ça l'a rendu tellement insensé qu'il s'est jeté par la fenêtre. Vous vous rappelez, ils ont été cinq.
Parmi vos autres livres, qu'est-ce qui, comme ça, à brûle pour point, vous vient comme ouvrage important dans votre vie ? J'ai la liste là sous les yeux.
Oui, alors moi pas tellement.
Bah, écoutez, Voilà.
Bon, alors, le premier livre que j'ai écrit, c'est La banquière des années folles, Martineau, parce que mon prof de Cagnes, à ce moment-là, au temps de l'affaire Anneau, que je n'ai pas connu, puisque ça se passait dans les années 24-25, vous voyez. Bon, mais mon prof de Cagnes, lui, à ce moment-là, connaissait, je ne sais plus comment, la banquière de l'affaire Anneau, et il m'a dit un jour, vous devriez écrire quelque chose sur la profonde injustice, vous qui aimez le féminisme, c'est la première femme banquier, et elle a inventé quelque chose qui maintenant est complètement popularisé et officialisé, c'est les SICAV, seulement elle n'avait pas le gouvernement derrière elle, et les banquiers l'ont descendue. Ils l'ont descendue si bien que elle avait été condamnée, et la veille de sa sortie de prison, elle ne voulait pas revenir vaincue, elle s'est suicidée. Alors c'était quand même une belle histoire.
C'est une belle histoire. Comment s'appelait ce prof de Cagnes ?
Eh bien, il s'appelait... Attendez. Alors là... Éteignez Max. Il s'appelait Albert Baillet, et il a dirigé les journaux après la résistance, justement, et il était très libéral, voilà, et cette histoire, il avait pris parti pour Madame Anneau, à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Puis alors quelqu'un que je voulais absolument faire connaître, c'était Flora Tristan.
Oui, alors. Alors donc, on a vu un peu pour Marie Anneau. Quels sont les autres... Oui, Marthe Anneau, excusez-moi. Quels sont les autres livres qui sont marquants ?
Il y a quelqu'un que je voulais absolument faire connaître et je n'y arrivais pas. Je le voulais déjà au Parti communiste où on m'avait opposé le fait que sa vie était un peu scandaleuse. Flora Tristan, la première féministe socialiste de France, c'était d'ailleurs une franco-péruvienne, et qui est morte de sa prédication. Elle est partie prêcher l'Union ouvrière avec dans sa malle les brochures de l'Union ouvrière, et comme elle vivait très misérablement et qu'elle était complètement sous-alimentée, elle est morte. C'est aussi une femme qui auparavant s'était mariée, avait eu trois enfants, etc. Et alors, j'ai pas du tout d'accord avec Proudhon. Elle a rencontré Fourier, mais ça n'a rien donné. Elle a rencontré les Saint-Simoniennes, ça n'a rien donné, de sorte qu'elle était très solitaire dans sa prédication. Et maintenant, c'est devenu une icône du féminisme international, bien sûr. Mais à l'époque, vraiment personne. Et c'est d'ailleurs très curieux. Je cherchais vraiment un éditeur, et à ce moment-là, le compagnon de Françoise Giroud, Alexandre Graal, Alex, dirigeait une section de Hachette, je crois, je ne me rappelle plus bien. Et alors je lui ai dit, il m'a téléphoné en disant, est-ce que vous avez un projet? On se connaissait bien sûr. Comme ça, en réponse, je lui dis oui, j'ai un projet, je vais écrire la vie, et puis je lui fais un résumé de qui était Flora Tristan. Il me dit, bien, laissez-moi la nuit pour réfléchir, ce qui se traduisait par, je vais en parler à Françoise Giroud, voir ce que c'est. Et il m'a téléphoné dans l'après-midi, il m'avait parlé, pardon, dans la matinée, il m'a téléphoné dans l'après-midi, et il m'a dit oui, le plus vite possible, etc. Voilà, c'est parti comme ça. Alors Flora Tristan, j'y tenais beaucoup. Eh bien, ensuite, tout ça, c'est après être sorti du Parti communiste. Alors, j'ai écrit Les Staliniens, et ça, c'était vraiment... Eh bien, voilà, quand je dis que ma vie est faite de hasard, quand je l'ai eu fini, il y avait l'Union de la gauche. Par conséquent, personne n'aurait dit un mot sur ce livre, Les Staliniens, puisque les socialistes étaient alliés aux communistes, les radicaux n'étaient pas contre, et la droite, je n'aurais peut-être eu qu'un article dans le Figaro, c'est tout. Une semaine avant la publication, l'Union de la gauche s'est défaite. Alors évidemment, ça a été un livre qui a eu du succès, de ce fait. Voilà.
Encore un hasard.
Ah oui, ah ben, vraiment un hasard qui ne dépendait nullement de moi, enfin, qui était inattendu. Alors ensuite, ce que j'aime bien, c'est, dans les biographies, c'est Aragon-Triolet, le couple ambigu, et le roman de Marina, qui a d'ailleurs eu le prix féminin de l'essai, et Marina Tsvetaeva, une des plus grandes poètes russes du XXe siècle, maintenant très reconnue, elle a son musée à Moscou, enfin tout, mais qui était émigrée et qui avait eu une histoire absolument tragique, parce que elle aussi, son mari était entré, poussé par elle, dans l'armée blanche, elle l'a suivi, et à Paris, comme plusieurs autres officiers de l'armée blanche, il est devenu un agent soviétique. Et il a été pris comme complice de quelque chose d'un meurtre criminel. Il n'a pas tué lui. Mais il était parmi ceux qui avaient arrangé les voitures. Il ne savait pas qu'on allait le tuer, à vrai dire. Il ne l'aurait sûrement pas fait, ce n'était pas son tempérament. Mais on lui a dit, alors tu prépares des voitures en Suisse, à telle date, enfin, etc. Il a été pris comme l'un des instigateurs du crime, et il est reparti en URSS, naturellement. Il a fait venir, alors elle hésitait énormément, puis poussée par son insupportable gamin, elle y est allée, elle est partie en URSS, son mari a été arrêté quelques mois après son arrivée, elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles, et elle s'est suicidée derrière l'Oural, parce qu'on avait, fait une grande évacuation des intellectuels de Moscou. Dans la plus grande misère, elle avait demandé à laver la vaisselle à l'Union des écrivains qui s'était installée dans ce patelin de derrière l'Oural, et on lui avait dit non. parce qu'elle était vaguement suspecte, on ne sait pas de quoi, parce qu'elle n'a jamais fait de politique. Et elle s'est pendue le 31 août 1941, le jour de mon anniversaire, mais ça, bien sûr, je ne le savais pas. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que pour mon anniversaire, un copain qui ne lisait pas le cyrillique, mais qui a trouvé sur les quais, il voulait me faire un cadeau, il a trouvé sur le quai un livre qui en fait était un numéro de revue russe, et il me l'a donné. Et il y avait là une biographie, un article de Marina Tsvetaeva sur Pushkin. Et bien sûr, j'ai lu ça dans la nuit, puisqu'il y avait le couvre-feu, ça n'avait pas duré longtemps, ma fête d'anniversaire. J'ai lu ça dans la nuit, et en calculant les heures, je crois que je l'ai lu exactement au moment où elle se pendait. Alors vous voyez, c'est quand même un hasard. Voilà.
Vous disiez que vous aviez rencontré Touki, Jean Toussaint de Santi, et vous aviez 18 ans. C'était dans quel contexte ?
Un contexte plutôt drôle. J'ai toujours eu des garçons étudiants un peu plus âgés parce que c'était chouette, ils m'apprenaient des choses et tout ça. Et alors ils m'ont dit, écoute, on va t'emmener à la garden party de l'école normale supérieure, 45 rue d'Ulm. J'ai dit oui, bien sûr. Bon, et alors, on y va. La première personne, il m'avait déjà parlé d'un philosophe corse complètement fou, qui tirait des coups de revolver dans les turnes, et notamment, il y avait un copain qui avait un tableau figuratif, mais futuriste, qui représentait un œil dans un triangle. Et De Santi, un jour, a tiré son revolver et a dit « Il m'emmerde cet œil de Dieu », il l'a tiré dans la pupille. Alors ça a beaucoup établi sa réputation, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Bon. Alors donc, j'ai dit, on me présenterait le Corse fou. Oh oui, bien sûr, on se présentera. Et puis en réalité, il ne me le présentait pas. Mais j'ai vu tout de même quelque chose de curieux. J'ai vu un jeune homme noir qui se penchait en arrière et qui des bras touchait le sol en arrière. Je n'avais vu ça qu'au cirque. C'était Aimé Césaire, qui a toujours dit « Dominique exagère, j'ai pas touché le sol ». Mais en fait, oui. Alors après ces exploits, je m'éloigne un peu du groupe, je vois un chat, et moi vous savez, je suis une maniaque des chats, alors je ne vois que la tête du chat, le chat s'approche, je pose ma main sur la tête, il y avait déjà une main sur le dos du chat, je lève les yeux, je vois un jeune homme à lunettes, avait rien de particulier, mais l'air gentil, et je lui dis une phrase que lui m'a répétée, qui n'a aucun sens, si on y réfléchit, « Ah, si les hommes étaient comme des chats, la vie serait quand même beaucoup plus simple. » Il a trouvé que c'était d'une profondeur philosophique admirable, et qu'il voulait absolument connaître cette fille-là. Voilà.
Et qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Je ne sais pas. Bien sûr, je suis incapable de vous dire, mais je ne sais pas.
Mais le chat a été important dans votre vie.
On s'est baptisé mutuellement chat, on s'est toujours appelé chat, et pour mes amis, je reste le chat.
Qu'est-ce qu'il y a chez cet animal qui soit si important ?
L'indépendance, le goût de la liberté, le choix des gens qu'il aime, qui ne sont pas forcément ceux qu'il nourrisse, et sa détermination. Quand un chat vient vers vous et qu'il veut que vous le caressiez, il attendra et il se frottera à vos jambes, il s'arrangera pour que ça arrive. Mais quand il en a assez, il est sur vos genoux, il s'en va, vous pouvez appeler, c'est pas un chien.
Il y a un côté méditatif aussi, non ?
Ah oui, oh ben c'est l'exemple même de la méditation. Alors d'ailleurs, nous avons eu un chat qui était toujours sur le bureau de Touki. Il devait beaucoup l'inspirer, sûrement.
Il s'appelait comment ?
Alors attendez. ça alors. Tacha qu'on a eu 18 ans.
Bon, ça va revenir.
Oui, ça va revenir. Nati, comment s'appelait mon chat? Nati, s'il vous plaît, comment s'appelait le chat que je partageais avec Loli?
Je ne sais rien.
Vous n'en savez rien.
Je ne me souviens plus. Mais il a arrêté longtemps, là.
Eh ben, 18 ans.
Bon. Comment il s'appelait?
Bon, ça reviendra.
Ça va
revenir.
Si ça vous revient, vous le...
Oui. Alors bon, il y a eu cet instant de rencontre avec Touki, puis ensuite, comment les choses se sont passées dans votre vie, alors? Avec lui, je veux dire.
Avec lui, ben, mon père, il était contre les mariages d'étudiants, comme tous les pères. Il disait qu'on allait crever de faim, que d'ailleurs, les petits profs gagnaient rien du tout. Alors lui, c'était tantôt tout et tantôt, alors vraiment rien du tout. Alors il était bien placé pour dire rien du tout. C'était le genre conseil juridique qui ne sait pas faire rentrer l'argent des clients. Ça existe, c'est vraiment, j'en connais d'autres, il y a des gens comme ça. Bon, alors, donc, il était assez mal placé, et puis il a connu Touki qui a fait tout de suite sa conquête, et on a décidé de se marier, parce qu'en ce temps-là, on était majeur seulement à 21 ans. Et alors mon père trouvait qu'une femme pouvait devenir n'importe quoi puisqu'il y avait eu Madame Curie, donc il n'y avait pas, l'horizon était entièrement ouvert, mais qu'une fille comme il faut est rentrée à 11h du soir. Alors ou alors il fallait dire on allait au théâtre, enfin la vie était trop compliquée. Et on avait dit le divorce n'est pas fait pour les chiens, on se marie et... Tous les 6 mois, on se demandera si on continue ou si on se sépare. Voilà. Et on l'a fait. Alors, tous les 6 mois, un petit dîner aux chandelles, rien que nous deux. Bah, évidemment, à force, on ne parlait plus du tout de ça. Et alors, le rituel, c'est qu'il fallait qu'à un moment donné, l'un de nous pose la question, on continue ou on arrête? Et alors, on disait, bon, ben... On continue ou on arrête? Et on disait, oh, voilà.
Vous avez connu Sartre et Simone de Beauvoir?
Oui, à une époque où ils étaient déjà connus, mais pas illustres. Et c'est vraiment une époque à la fois déplaisante, car c'était l'occupation, et très agréable dans le rapport avec eux, parce qu'ils avaient du temps. Alors, elle, je l'avais vue au Dôme, une dame qui écrivait, et moi je voulais écrire naturellement, comme toutes les femmes très jeunes, bon. Et alors elle écrivait, et je la trouvais très belle, et il y avait toujours des hommes et des femmes qui venaient la chercher, enfin elle était une figure romanesque, et puis un jour un copain m'a dit, elle s'appelle Simone de Beauvoir, elle est prof de philo, et elle est l'une de celle qui attend de Sartre. Or, nous avions lu La Nausée, et enfin le roman français devenait comme le roman américain. Alors là, je récitais l'histoire de la racine d'arbre par cœur, c'est vous dire. Alors de penser que c'était ça, Sartre revient en mars pour des raisons sanitaires, rapatrié sanitaire, il était dans un stalag. Pas un off-lag, car il est avec deux centiles les deux seuls normaliens qui ont refusé de faire la préparation militaire. Donc il avait été prisonnier dans un stalag, mais l'histoire de l'œil l'a aidé à être rapatrié. Et il venait de rentrer quand il a demandé à Merleau-Ponty « Est-ce que tu connais quelqu'un qui agit contre ?» Alors, Merleau connaissait vaguement, savait vaguement, il connaissait très bien, mais il savait vaguement que Cavaillès faisait quelque chose contre, mais Cavaillès était en province, et il nous connaissait, nous. Parce que dans notre petit groupe, qui a été formé en octobre 40, sous le nom très original de « Sous la botte », l'occupation, il y avait plusieurs normaliens philosophes, François Cusin, qui a été fusillé en 1944 pour fait de résistance par la Gestapo, très exactement, et Touki et d'autres. C'était un groupe où il y avait des normaliens et d'autres étudiants. Et donc on publiait un bulletin recto verso qui s'appelait Sous la botte, et il y avait des récits sur l'occupation et sur la nécessité de s'y opposer, comment faire, etc. Comment faire, on n'en savait rien. Et alors, Sartre a dit, je veux les connaître. Et c'est comme ça qu'avec lui, nous avons fait jusqu'à la fin de 1942 un opuscule beaucoup plus important, où il avait écrit, par exemple, une future constitution qui serait bien curieuse à voir maintenant. Merleau-Ponty avait également écrit. Et puis, il n'y en a pas un exemplaire. Ça
s'appelle dommage.
Socialisme et liberté. Mais pas un exemplaire au point que je ne peux pas prouver par écrit que ça a existé. Enfin, heureusement, on est plusieurs à l'avoir su. Alors, comme ça. Mais actuellement, vivante, ayant participé vraiment, il n'y a que Simone Lebout qui m'a téléphoné tout à l'heure et moi.
Et la relation avec Sartre et de Beauvoir s'est continuée pendant un certain temps. Comment ça s'est passé?
Alors, il y a eu des phases. On a été très amis jusqu'à ce que la guerre froide nous sépare. Et puis ensuite, Sartre s'est rapproché du parti au moment où je m'en éloignais. C'était vraiment comme le jeu du petit bonhomme et de la petite bonne femme. Et là, aussitôt que j'ai quitté le parti, on est redevenu amis, hein, tout de suite.
Je vois que vous avez le livre de Lanzmann, là, le lièvre de Patagonie.
J'ai rien à en dire.
Vous n'avez rien à en dire, vous ne l'avez pas lu encore?
Je l'ai lu.
Vous l'avez lu. Il y a des photos ici assez. Il y a des photos et puis des tableaux où on voit. On vous voit avec Jean Toussaint de Santy, il y en a qui sont très. Il y a une photo qui est très très belle ici. Il y a toute une série aussi de dessins.
C'est-à-dire, alors, c'est ce que Touki appelait ses coloriages.
Qui faisait ça?
Touki.
Ah oui.
Ah oui, il appelait ça ses coloriages. Et ça lui donnait des idées, c'est des choses très différentes. Ça, c'est la mer en Corse et le soleil, le vent au couchant. Ça, c'est beaucoup plus moins figuratif, mais c'est chaque fois l'expression de son humeur.
On sent sa présence ici.
Oh, ben, entièrement.
Il y a une seule fois où il m'avait donné rendez-vous chez Tonio, la rue des Martyrs, où il n'était pas venu. Et où, donc j'ai appelé ici, il m'a dit, mais pourquoi t'es pas monté? J'avais une espèce de gêne ou de pudeur ou d'absence de témérité pour venir. Je crois que j'ai eu tort. J'aurais dû passer, mais il m'avait... C'était un jour où il avait oublié, il n'allait pas très bien à ce moment-là déjà, mais il était toujours présent à ses rendez-vous, aux rendez-vous qu'il donnait.
Oh là là, Touki, présence militaire.
Oui, oui.
5 minutes avant, c'est pas l'heure, 5 minutes après, c'est plus l'heure.
Alors, on sent sa présence ici, évidemment, c'est aussi son absence, puisque physiquement il n'est plus là, il est mort. Votre vie, je me souviens vous avoir rencontré, vous m'avez dit maintenant ma vie ça va être tout à fait autre chose. Est-ce que c'est difficile pour vous depuis sa mort? Comment vous y arrivez? Est-ce que vous l'avez incorporé complètement au point de survivre?
C'était le seul. Alors, je ne pensais pas, et beaucoup de gens autour de moi ne pensaient pas que je survivrais longtemps. Et je ne le pensais pas. Et puis, je l'ai vraiment senti tellement intérieur à moi, puis les copains ont joué un rôle important, car ils étaient très présents, très imbus de sa présence à lui, et ça a fait une espèce d'atmosphère qui a constitué une vie naturellement très différente, bien sûr, mais une vie vivable, mais où il est complètement présent. Enfin, c'est même ridicule. je prends mes décisions après conciliabule avec lui. Enfin,
il m'avait dit, on peut discuter avec un philosophe même quand il est mort.
Oui, ben,
c'est vrai.
C'est vrai, oui. C'est
bon, vrai. Dominique, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
Je suis très contente d'avoir parlé avec quelqu'un qui a autant apprécié tout qui...